Les gens, moi-même inclus, prononcent beaucoup de paroles en l'air, disent des choses inutiles ou blessantes et souvent feraient bien mieux de se taire. Par contre, la parole de Dieu contenue dans les textes sacrés est bienfaisante, précieuse, vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Je continue à lire dans le premier chapitre du livre de Jérémie. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Verset 4. Dès le début du livre, il est question d'un message qui vient de Dieu. Il vaut la peine de le remarquer, car ce que va dire ce prophète n'est pas de son cru, mais émane de l'Éternel, et il nous faut l'accepter comme tel. On ne sait pas trop bien comment ces prophéties ont été communiquées à Jérémie, mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il s'agit de la parole de Dieu. Je continue. « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. » Je t'ai établi prophète pour les nations. Verset 5. L'appel de Jérémie est similaire à celui de l'apôtre Paul, qui était lui aussi issu de la tribu de Benjamin, qui reçut également la mission de porte-parole de Dieu auprès des nations et qui fut choisi par l'Éternel un peu comme Jérémie. Je lis de passage. Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et, dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Le fait que ces deux hommes aient été appelés à une mission particulière avant même qu'ils ne naissent soulève la question. Quand commence la vie? Et quand est-ce qu'un embryon est une personne? D'après les Écritures, il semble bien que ce soit à la conception. Je lis un passage du livre des Psaumes. « Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Fin de citation. En d'autres mots, l'avortement, qu'il soit légal ou pas, n'est pas un geste neutre devant Dieu, car il ôte une vie. Le ministère du prophète Jérémie a une origine divine et éternelle bien antérieure à sa naissance et son élection par Dieu s'est faite en trois actes qui ont précédé sa naissance. Premièrement, il a été choisi. Ce verbe signifie habituellement « connaître », mais d'après le contexte, il peut servir à exprimer l'idée de choix souverain par Dieu, comme c'est le cas ici. L'Éternel connaît d'avance tout ce qu'il crée, que ce soit la matière ou le monde vivant, du plus petit microbe à tous les êtres humains, en passant par chaque atome, électron, particule, virus, protéine, etc. Cependant, Dieu porte un intérêt particulier à ceux qui seront ses fidèles, parce qu'ils croiront en lui. Je lis un passage. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Fin de citation. Deuxièmement, Jérémie a été consacré, c'est-à-dire mis à part dans le conseil de Dieu en vue d'un ministère prophétique. Tout ce qui est réservé à Dieu est saint, que ce soit des personnes ou des choses. Par exemple, tous les objets du culte et toute la vaisselle du temple qui étaient utilisés pour adorer et servir l'Éternel lui étaient consacrés. Même les gamelles tordues et usées qui auraient dû être remplacées étaient saintes à cause de leur usage et indépendamment de leur apparence. Troisièmement, Jérémie a été établi prophète pour les nations. L'Éternel lui a donné d'avance l'autorité et le courage nécessaires pour remplir sa tâche. Si l'Éternel dit tout cela à son prophète, c'est parce qu'il va lui demander de donner aux habitants de Juda un message qu'ils vont refuser en bloc, et comme chacun sait, il est toujours désagréable de se faire jeter. En plus, Jérémie sera battu, menacé, emprisonné, ce qui est encore plus déplaisant. Et puis son message va briser son cœur, car il aimait son peuple et ne voulait pas lui annoncer tous les malheurs qui allaient s'abattre sur lui. Dieu se veut donc encourageant dans le sens où le prophète sait d'avance et sans l'ombre d'un doute que c'est bien l'Éternel qui l'envoie pour parler de sa part. Ce que Dieu dit à Jérémie me concerne directement, mais dans une moindre mesure, bien sûr, puisque je ne suis pas inspiré au même titre que les écrivains sacrés. J'expose, j'explique et je commente la parole de Dieu telle qu'elle est sans essayer d'en arrondir les angles. C'est là ma responsabilité. Si ce que je vous dis vous offense, je le regrette sincèrement et je souhaiterais qu'il n'en soit pas ainsi. Mais en dernier recours, c'est à Dieu que je devrais un jour rendre des comptes. Je suis sûr que je peux toujours m'améliorer, mais il ne m'est pas possible de changer le contenu du texte car il est sacré. Jérémie est non seulement un prophète pour le royaume de Juda, mais aussi pour les nations. Comme l'Éternel est le Dieu de toute la terre, ses représentants sont chargés d'une mission à caractère universel. En effet, la dernière partie du livre concerne les nations païennes qui entouraient Israël. Je continue maintenant le texte. Jérémie répondit « Hélas, Seigneur Éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. » Verset 6. Cette réponse est de bon augure de la part d'un serviteur de Dieu et rappelle celle de Moïse lors de sa vocation. Un sentiment analogue est exprimé par Ésaïe lors de son appel. Mais tandis que ce dernier était surtout conscient de sa culpabilité devant Dieu, Jérémie est plutôt dominé par un sentiment de faiblesse. Le terme adolescent, enfant en hébreu, indique seulement qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 30 ans qui était chez les Juifs, celui de la majorité. Il devait avoir un peu plus de 20 ans. Je continue. Mais l'Éternel me répondit, « Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. » Verset 7. Dieu ne remet pas en question l'appel de Jérémie, vu que les deux conditions de succès sont remplies, son obéissance et la puissance de Dieu. Le prophète ou le serviteur de l'Éternel accomplit convenablement sa mission quand il se soumet entièrement à celui qui l'envoie, indépendamment de la réponse de ceux auxquels il s'adresse. Mais il faut qu'il donne la parole de Dieu et non pas des théories ou ses idées. Rester fidèle au message divin est une position, ma foi, très confortable, parce que, au final, c'est à Dieu de défendre sa parole, ou plutôt, elle se défend elle-même, car elle est dotée d'une puissance surnaturelle qui fait qu'elle ne retourne pas à Dieu à vide, mais accomplit ses objectifs. Je continue le texte. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. Verset 8. Dieu a fait la même promesse à Moïse et Jésus aux disciples. Dieu rappelle à Jérémie qu'il est de son côté et qu'il n'a donc rien à craindre. Martin Luther a dit « Un homme avec Dieu est une majorité ». C'est sûr que le prophète va prendre des coups, mais il n'empêche qu'il a vécu vieux. Il avait de 60 à 65 ans au moment de la chute de Jérusalem et de 85 à 90 ans si c'est bien lui qui a écrit les derniers événements à la fin du livre. Je continue. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. » Verset 9. Dieu donne à Jérémie la capacité d'exercer le ministère de la parole auquel il l'appelle. Cet événement était sans doute une vision, mais il n'en est pas moins réel. Une scène analogue nous est racontée par Ésaïe qui dit qu'un séraphin lui a touché les lèvres avec un charbon ardent, tandis qu'ici c'est l'Éternel lui-même qui pose sa main sur la bouche du prophète. Il faut savoir que toutes les paroles des Écritures sont inspirées et pas seulement les pensées et les idées qui y sont développées. Il est donc essentiel de traduire les mots le plus précisément possible. Je vais donner un exemple amusant pour montrer que la justesse des mots est importante. Une jeune fille qui voulait devenir chanteuse a dû faire une démonstration de ses talents devant un jury afin qu'on puisse déterminer si oui ou non elle avait les capacités requises pour cette profession. Après son audition, elle s'est précipitée vers une amie pour lui demander ce qu'on avait dit d'elle. Cette dernière, se voulant diplomate, a répondu « J'ai entendu dire que c'était un chant paradisiaque. » Sceptique, la jeune fille a voulu connaître exactement, mot pour mot, le commentaire qu'on avait fait à son sujet. Son amie a blêmi, puis a répondu « Eh bien, ils ont dit que c'était un bruit extraterrestre. » Les mots sont importants, mais tout ce qui est rapporté dans les Écritures ne vient pas de Dieu. Ainsi, dans le Jardin d'Éden, ce n'est pas Dieu qui a soufflé le mensonge que Satan a dit à Adam et Ève. Par contre, cette histoire qui nous est rapportée dans le livre de la Genèse est inspirée, elle a bien eu lieu. Je continue le texte de Jérémie. « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Verset 10. Dans les Écritures, les institutions divines ou humaines sont souvent comparées à des constructions ou à des plantations. Au moyen de deux métaphores, l'une empruntée au monde agricole et l'autre au domaine de la construction, l'Éternel décrit la double mission du prophète. Jérémie aura à la fois un ministère de jugement et de salut. Cependant, l'aspect négatif, la destruction, sera prépondérante, car il est décrit avec quatre verbes contre seulement deux verbes relatifs à l'aspect positif de construire. La parole de Dieu a une double efficacité. D'une part, elle donne la vie, et d'autre part, elle condamne. Tout ministère fidèle aura ces deux conséquences, détruire et édifier. Sur les six verbes du passage, quatre se répondent deux à deux, arracher et planter, ainsi que renverser et construire. C'est l'Éternel lui-même qui accomplira ces tâches. Ici, elles sont attribuées au prophète parce que comme il parlera au nom de Dieu, les paroles qu'il prononcera seront suivies d'effets. L'Égypte, Babylone et Jérusalem seront arrachées et détruites. Mais l'Éternel reconstruira le royaume israélite. Dans un premier temps, les Juifs reviendront d'exil et ensuite Dieu conclura une nouvelle alliance avec l'humanité. Jérémie a prophétisé durant les règnes de cinq rois. Chacun d'eux voulait être plus important que le précédent et accomplir de grandes choses. Mais les quatre derniers, comme les habitants de Juda, ont rejeté le message de Jérémie. Que nous reste-t-il aujourd'hui des réalisations de ces rois approuvés par les gens du peuple? Rien du tout. Ils sont venus sur la scène internationale et ont disparu sans laisser de traces. Par contre, nous avons entre nos mains le livre de Jérémie parce que c'est la parole de Dieu. Elle a survécu et survivra. Je continue le texte. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. »« Tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » Versets 11 et 12. Jérémie reçoit un signe symbolique tout comme Moïse avant lui. Le verbe traduit par « veiller » fait assonance avec le nom amandier. En hébreu, l'amandier est appelé l'arbre qui veille parce qu'en Palestine, il commence déjà à fleurir au mois de janvier alors que tout le reste de la nature est encore plongé dans le sommeil hivernal. En effet, quand nous habitions la région de Montpellier, les fleurs d'amandier précédaient toutes les autres et annonçaient déjà le printemps. Cet arbre est mentionné ici en tant que symbole de la vigilance divine toujours active qui plane sur le pays pour faire venir au moment voulu, c'est-à-dire très bientôt, les jugements prédits. La toute science de Dieu connaît les péchés d'Israël et sa justice veille à l'exécution de ses menaces. Mais en même temps, par ses prophéties, Jérémie est appelé à réveiller les Israélites de leur torpeur spirituelle. Il doit ainsi jouer le rôle de l'alarme d'un réveil matin qui tire le dormeur de son sommeil. Je continue le texte. « Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. « Que vois-tu encore ?» Et je répondis, « Je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. » Versets 13 et 14. Aujourd'hui encore, dans les pays arabes, la chaudière qui boue est une métaphore proverbiale pour signifier une menace de guerre. Ici, elle symbolise l'invasion babylonienne qui viendra du nord par la Syrie, le chemin que suivaient tous les conquérants orientaux parce que le désert de Syrie les empêchait de venir directement de l'est. Les siècles précédents, Syriens et Assyriens, avaient emprunté cette même route. Je continue. « Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare, ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda, et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. » Versets 15 et 16. Les peuples des royaumes du Nord, littéralement les familles du Nord. Il s'agit des Chaldéens, aussi appelés Babyloniens et leurs alliés. Ils vont venir pour assiéger, tuer, emmener des captifs et dicter la loi du vainqueur. Je lis un passage des livres historiques. « Alors, Jéhoiakim, roi de Juda, se rendit au roi de Babylone, avec sa mère, ses ministres, ses officiers et ses hauts fonctionnaires. Ils furent faits prisonniers par le roi de Babylone la 8e année de son règne. » Fin de citation. La raison de ces malheurs sur le point d'arriver est indiquée. C'est le comportement coupable des habitants de Juda, tout particulièrement l'idolâtrie souvent dénoncée dans la suite par Jérémie. Je continue le texte. « Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier. » Verset 17. En Orient, mettre sa ceinture signifiait qu'on était sur le point de se mettre en route ou partir en guerre ou entreprendre un travail. En hébreu, les deux verbes traduits par « terrifier » forment une assonance. On pourrait aussi rendre la phrase par « ne te laisse pas abattre de peur que je ne t'abatte ». Jérémie sait d'avance qu'une foule d'ennuis l'attend, et il en a déjà des sueurs froides. De plus, il n'était pas du genre battant, mais un être sensible. Enfant, c'était le petit garçon qui allait vite se réfugier dans les jupes de sa mère au moindre défi. L'Éternel, sachant cela, l'avertit, afin qu'il ne succombe pas à sa crainte naturelle, mais la surmonte par la confiance en lui. Ça paraît dur, mais Jésus aussi a mis en garde ses disciples contre la timidité à son égard. Je lis le passage. « Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. » Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. » Fin de citation. Le prophète sera persécuté par les Israélites. Par contre, les Babyloniens seront bienveillants à son égard. Je finis le chapitre premier. « Et moi, dit l'Éternel, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te protégerai. » Versets 18 et 19. Jérémie, étant le porte-parole de l'Éternel, son rôle consistera à proclamer fidèlement son message. Mais comme sa mission allait être extrêmement difficile et dangereuse, Dieu l'assure de son soutien et se porte garant de sa sécurité. Il allait aussi lui donner la force de tenir bon. Les trois images du texte, une ville fortifiée, un pilier de fer et un rempart de bronze, expriment la puissance de résistance à des assauts, c'est-à-dire l'impassibilité et la ténacité que le prophète devra opposer aux attaques de ses ennemis, les Israélites infidèles. Effectivement, Jérémie fut brutalisé, emprisonné, mais bénéficia de l'intervention et de la protection divine à plusieurs reprises. D'ailleurs, sans elle, il aurait été rapidement éliminé. L'Éternel a donné à d'autres prophètes des assurances semblables. Ésaïe a dit « Le Seigneur, l'Éternel, viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. » Et l'Éternel a promis à Ézéchiel « Je vais rendre ton front aussi dur que le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne tremble pas en leur présence, bien que ce soit une communauté de rebelles. » Fin de citation. La présence de Dieu à ses côtés n'est en aucune manière une garantie qu'on ne souffrira pas ou même qu'on aura la vie sauve. Certains croyants sortent miraculeusement indemnes d'une tragédie, tandis que d'autres, tout aussi fidèles, sont sérieusement blessés ou même tués. Notre rôle est de faire confiance à Dieu, sachant que dans sa sagesse et en fonction de ses objectifs, il décide de la meilleure course d'action à prendre pour chacun d'entre nous.